C'est quand même, enfin, je sais pas, c'est une situation incroyable quand on prend le temps d'y penser. Imaginons 2 secondes l'ouverture d'un supermarché géant.
Ok, je visualise le truc.
Un endroit immense, tu vois, des allées à perte de vue avec des milliers de produits super bien rangés. Et les propriétaires de ce supermarché disposent d'un budget marketing colossal.
Le rêve pour n'importe quel commerçant, quoi.
Ouais, exactement. Mais au lieu d'investir cet argent pour allumer les lumières dans les rayons, au lieu d'installer des panneaux pour indiquer où se trouvent les articles, ils prennent une décision complètement ahurissante.
Ne me dis pas qu'ils mettent tout le budget dehors.
Pire. Ils dépensent l'intégralité de leur budget pour imprimer un petit magazine d'information gratuit, super beau, hein, mais qu'ils posent juste sur un petit présentoir à l'entrée du magasin.
Ah ouais, d'accord. Et le résultat est forcément dramatique.
Bah oui.
Les clients entrent, ils prennent le petit magazine, ils le feuillettent dans la pénombre du magasin vu qu'il n'y a pas de lumière. Ils apprennent peut-être 2 ou 3 trucs sympas et puis bah, ils repartent.
Les mains vides.
Les mains complètement vides, parce qu'ils n'ont absolument pas trouvé le chemin vers les rayons où se trouvent les produits qu'ils voulaient acheter à la base.
C'est absurde, hein ? Personne ne ferait ça dans le monde physique. Et pourtant, bah, c'est très exactement ce qui se passe, en ce moment même, à très grande échelle, dans l'industrie de la vente en ligne. Et du coup, c'est vraiment la mission de notre analyse d'aujourd'hui.
Tout à fait.
On va décortiquer une réalité assez dérangeante, qui a été mise en lumière par un article, à l'article vraiment coup de poing, écrit par Samy B., du cabinet Vanguard Consulting, gaspille littéralement des fortunes dans des stratégies d'acquisition qui sont inefficaces. Alors que le vrai trésor, bah, la mécanique qui génère réellement des ventes, elle est juste là, cachée sous leurs yeux.
Et ce qui rend le constat de Vanguard Edge si pertinent, c'est qu'il frappe là où ça fait mal, c'est-à-dire notre compréhension même de ce qu'est le trafic web.
Vas-y, explique-nous.
Bah, quand on regarde les données récentes, tu vois celles compilées notamment par Ringly.io ou encore la Charles Agency pour cette année 2025, on réalise un truc de fou. Le trafic organique, donc les gens qui cherchent sur un moteur de recherche et qui cliquent sur des résultats non payants, eh bien ça génère entre 43 et 53% du trafic total des boutiques en ligne.
Attends. Presque la moitié du trafic mondial des sites de e-commerce viendrait de là.
Ouais, c'est colossal.
Mais on parle du tout premier canal d'acquisition, du coup. Loin, très loin devant les publicités payantes sur les réseaux sociaux qui, en plus, coûtent de plus en plus cher.
Précisément. Et c'est pas juste une question de volume, hein. C'est la rentabilité qui est écrasante. Le retour sur investissement moyen de ce canal, la recherche au naturel, ça tourne autour de 317%.
317 ?
Ouais. Avec un point d'équilibre financier qui est atteint en moyenne en 9 mois. Donc l'argent est là, l'intention d'achat, elle est là aussi. Mais le problème, et c'est ce que soulève l'auteur de l'article, c'est que les agences généralistes qui accompagnent ces boutiques se trompent complètement d'outils.
Ce qui m'amène à une question peut-être un peu naïve. Si c'est si rentable, pourquoi est-ce que ça plante autant pour la majorité des gens? Je veux dire, aujourd'hui, tout le monde fait du référencement. Hein.
Bah, parce qu'ils appliquent les règles du journalisme ou de l'édition de contenu à un environnement purement transactionnel.
C'est-à-dire?
L'article de Vanguard Edge l'explique parfaitement. Le commerce électronique, c'est un tout autre sport. Le souci, c'est que la majorité des professionnels du référencement viennent du monde du contenu.
Ah, d'accord.
Ils ont été formés, tu vois, pour faire grimper des articles de blog dans les résultats de recherche. Ils adorent rédiger de longs textes super informatifs.
Mais attends, je me fais l'avocat du diable une seconde. Parce que pour ceux qui nous écoutent, on entend ça partout, le fameux « le contenu est roi ». Faire un blog, attirer des gens avec de l'information de qualité, créer ce qu'on appelle souvent des cocons sémantiques. Tu es en train de dire que ça ne fonctionne pas?
C'est là qu'il faut regarder les mathématiques implacables de la conversion, en fait. Il y a une différence fondamentale de comportement selon la page d'atterrissage du visiteur.
Ok, donne-moi un exemple.
Imagine un visiteur qui arrive sur une boutique via une page catégorie, genre une page qui liste des dizaines de paires de chaussures. Cette personne va convertir, donc acheter, à hauteur de 8 à 15%.
D'accord, donc sur 100 personnes qui arrivent sur cette page, on a en gros une dizaine d'acheteurs réels.
C'est ça.
Et pour le blog, ça donne quoi ?
Pour quelqu'un qui arrive via un article de blog, par exemple un article qui s'appelle « Comment bien choisir ses chaussures de course », là, le taux de conversion s'effondre. On tombe entre 1 et 3%.
Ah oui, la claque, c'est plus du tout la même chose.
Bah non, parce que l'intention n'est pas la même. Dans le premier cas, la personne est déjà dans le rayon, elle a son caddie, elle est prête à acheter.
Et dans le deuxième cas, c'est mon histoire de magazine. Elle lit le petit magazine gratuit à l'entrée du supermarché.
Exactement. Elle n'est pas là pour dépenser son argent à la seconde.
C'est fou quand on le met en perspective comme ça. Donc, le vrai levier de croissance, le truc qui fait tourner la boutique, ce ne sont pas ces longs articles informatifs. Ce sont vraiment les pages de collection.
Absolument. D'ailleurs, l'article s'appuie sur des données de The Development en 2025 pour montrer que ces pages catégories captent en réalité entre 60 et 80% du chiffre d'affaires organique global d'un site. C'est vraiment le moteur de l'entreprise.
80% du chiffre d'affaires.
Ouais, et techniquement, c'est super logique. Une seule page catégorie, vu qu'elle englobe une thématique large, elle peut se positionner sur, je sais pas, 50 à 100 mots-clés différents dans les moteurs de recherche.
Alors qu'une page produit toute seule.
Voilà, une page produit isolée, elle va rapidement plafonner à 1 ou 5 mots-clés max.
Ça me rappelle cet exemple incroyablement concret cité dans l'article. Un truc qui m'a vraiment fait bondir. C'est le cas de ce client de Samy B, qui est dans le domaine très concurrentiel des compléments alimentaires.
Ah oui, ce cas-là est fascinant.
Au lieu de s'obstiner, ils ont simplement arrêté les frais sur l'éditorial. Ils ont complètement stoppé la publication de leurs 4 articles de blog mensuels. Fini.
Et qu'est-ce qu'ils ont fait de tout ce budget et de tout ce temps dégagé du coup ?
Eh bien, ils ont redirigé tout cet effort vers l'optimisation pure et dure de seulement 10 pages de leur catégorie de produits. Et le résultat est bluffant. L'auteur montre que ce simple changement de cap a eu un impact positif sur un volume de 500 à 1000 positions sur les moteurs de recherche.
Juste en arrêtant d'écrire des articles.
C'est ça. Juste en arrêtant de faire du magazine pour enfin éclairer les rayons de leur supermarché.
C'est la preuve par l'exemple, tu vois, que la stratégie de volume éditorial est souvent une impasse totale en commerce électronique.
Mais du coup, est-ce qu'on doit aller jusqu'à dire que le blog est mort ?
Parce que pour ceux dans notre audience qui ont passé, je sais pas, des nuits blanches à rédiger des articles sur leur boutique, on supprime tout ? On jette tout à la poubelle ce soir ?
Non, non, et c'est important de nuancer ce point. L'auteur ne dit pas que le blog est toxique par nature. Il a son utilité pour capter des recherches très spécifiques, pour rassurer l'acheteur ou même expliquer l'usage un peu complexe d'un produit technique.
Donc on le garde, mais...
Mais la règle d'or imposée par cette analyse, c'est que le blog ne doit jamais, au grand jamais, passer avant les collections. Le vrai problème, c'est l'inversion de l'effort.
C'est-à-dire ?
Bah, si la machine technique qui liste tes produits est cassée, écrire des jolis articles autour, ça ne réparera jamais les ventes. D'accord, je comprends super bien le principe. Mais si c'est si évident que ce sont les collections qui rapportent l'argent, pourquoi la plupart des sites n'arrivent-ils tout simplement pas à les faire décoller ? Qu'est-ce qui coince au niveau technique, en fait ?
Ce qui coince, c'est une fonctionnalité que tout le monde, toi et moi y compris, adore utiliser en tant que client. Mais c'est une véritable catastrophe silencieuse pour la structure même du site. L'article qualifie carrément ça de bombe à retardement.
Oula ! Tu parles des fameux filtres à facettes, c'est ça ?
C'est ça.
Je vois très bien de quoi on parle. Pour notre audience, c'est la petite barre sur le côté gauche de l'écran où on peut cocher sa taille, sa couleur préférée ou trier par prix croissant. C'est bien de ça qu'on parle.
Exactement. C'est indispensable pour l'utilisateur qui cherche un produit précis. Mais c'est le chaos absolu en coulisses pour les machines. C'est d'ailleurs identifié comme le problème technique numéro 1 dans ce secteur. C'est confirmé par des instances reconnues comme Search Engine Journal ou encore DeepCrawl au cours de ces 2 dernières années.
Mais enfin, je comprends pas pourquoi un simple filtre de couleur génère-t-il un tel chaos au site ? Ça semble tellement banal.
Pour comprendre, il faut vraiment se mettre dans la tête d'un robot de moteur de recherche. Ce robot, il dispose d'un temps et de ressources super limitées pour visiter ton site. C'est ce qu'on appelle un budget d'exploration.
Ok, il n'a pas toute la vie devant lui.
Voilà. Et quand ton système de filtre est mal configuré, à chaque fois qu'un utilisateur ou un robot croise des critères, par exemple, il clique sur « robe », puis il ajoute le filtre « taille », puis « rouge », puis « prix croissant », eh bien le site génère techniquement une toute nouvelle adresse URL. Il crée une nouvelle page.
Attends, tu veux dire que ces combinaisons sont infinies ?
Quasiment, oui.
Ah ouais. L'exemple cité par Google lui-même, et qui est repris dans le texte de Vanguard Edge, donne carrément le vertige. On y parle d'un catalogue minuscule. Un truc de 158 produits à peine.
Une toute petite boutique.
Eh bien, à cause de ces combinaisons de filtres qui ont été laissées en liberté sans aucun contrôle, ce petit site a généré, accroche-toi bien, 380 000 adresses web différentes.
380 000.
380 000 pages pour vendre seulement 158 malheureux articles.
Mais c'est démentiel.
Pour imaginer un peu la chose, c'est comme si on donnait une mission à un facteur. On lui demande de distribuer des lettres dans un quartier. Mais on lui impose une règle complètement absurde.
Laquelle ?
Il doit sortir une loupe et examiner chaque grain de papier, chaque fibre microscopique de la première enveloppe, sous tous les angles possibles, avant d'avoir le droit de faire le moindre pas vers la maison suivante. Que se passe-t-il à ton avis ?
Bah, le facteur passe sa journée entière figé devant la première boîte aux lettres.
Exactement. Et tout le reste du quartier ne reçoit jamais son courrier.
C'est une excellente façon de se le représenter. Le facteur, dans notre cas, c'est le robot d'indexation de Google. Il épuise toute son énergie, tout son temps sur des pages totalement inutiles. L'article mentionne d'ailleurs un client dans le textile féminin. Ils avaient 800 références de vêtements.
D'accord.
Eh bien, leur site créait des dizaines de milliers de pages dupliquées pour de toutes simples variations de tri. Le moteur de recherche ne voyait même plus les pages catégories principales, celles qui convertissent vraiment, parce qu'il était littéralement noyé sous des variantes de filtres qui n'ont aucun intérêt commercial global.
Mais alors, il y a un truc qui m'échappe là. Ne suffit-il pas de mettre une sorte de panneau sans interdit pour les robots? Je veux dire, on entend souvent parler du fameux fichier robots.txt pour dire au moteur « Hey les gars, n'allez pas regarder mes filtres !» Hop, problème réglé, non?
Ah, ça, c'est la solution de facilité que proposent énormément d'agents généralistes. Et l'article explique très bien pourquoi c'est une fausse bonne idée absolue.
Ah bon? Pourquoi?
Parce que bloquer massivement via ce fichier, ça empêche certes le robot de lire le contenu de la page, mais si un lien pointe vers cette page depuis n'importe où ailleurs sur le web, le moteur va quand même la détecter et créer une sorte de page fantôme dans son index. Ça ne nettoie pas du tout la structure.
Donc, si je reprends mon analogie, le facteur sait qu'il y a une lettre, il ne la lit pas, mais il se la trimballe quand même dans sa sacoche et ça l'encombre.
C'est exactement ça.
Mais du coup, que faut-il faire si on ne peut pas juste bloquer la porte?
Il faut une approche beaucoup plus chirurgicale. C'est là qu'entrent en jeu des éléments techniques, comme les balises canoniques, qui doivent être couplées à des directives très précises de non-indexation.
Oula, balises canoniques, là on frôle le jargon de cours de programmation avancée. Est-ce qu'on peut décrypter ça simplement pour les e-commerçants parmi nous qui veulent juste vendre leurs produits sans avoir besoin de passer un doctorat en informatique?
Bien sûr. Imagine que tu as 10 copies du même contrat sur ton bureau. Une seule est l'original, tu vois, et les 9 autres, c'est juste des brouillons.
Ok, je vois.
Une balise canonique, c'est tout simplement un gros autocollant fluorescent que tu vas coller sur la copie originale, avec écrit dessus « Attention, c'est celle-ci qui compte. Ignorez complètement toutes les autres. »
Ah, c'est malin.
En langage code, c'est un signal envoyé au moteur de recherche pour lui dire « Parmi toutes ces milliers de pages générées par les filtres, la seule qui a une vraie valeur pour toi, c'est la catégorie « mère ».
C'est beaucoup, beaucoup plus clair. Donc, au lieu de bloquer la porte sauvagement avec un panneau sans interdit, on indique poliment, mais super fermement, où se trouve le seul document important. D'accord.
Voilà, c'est ça.
Mais générer des pages inutiles, c'est une chose. Ça pollue, ok. Mais il y a un autre concept dans l'article de Vanguard Edge qui m'a semblé, pour le coup, encore plus destructeur pour les ventes d'une boutique. C'est quand le site se met carrément à se tirer une balle dans le pied.
Ah, tu fais référence à la cannibalisation structurelle.
Exactement. Rien que le terme, il fait un peu peur d'ailleurs. De quoi on parle exactement là?
On parle d'auto-sabotage à l'état pur. Et le mot structurel est crucial. Dans l'écosystème d'une boutique en ligne, la cannibalisation, c'est pas juste une petite erreur d'inattention de temps en temps. C'est souvent ancré dans les fondations même du catalogue.
C'est grave à ce point?
Ah oui. D'ailleurs, des acteurs majeurs de l'industrie, comme Shopify ou Butterfly, l'ont documenté très en détail en 2024 et 2025. Le mécanisme est simple. Tu crées plusieurs pages sur ton propre site qui ciblent très exactement la même intention l'utilisateur.
T'aurais un exemple pour qu'on visualise bien?
Prenons une boutique d'articles de sport. Tu as une page catégorie principale qui s'appelle « Chaussures running homme ».
Ok.
Et puis, un peu ailleurs dans le menu, quelqu'un a créé une autre page nommée « Running homme ». Et enfin, pour couronner le tout, le système d'étiquette du site a généré automatiquement une page de tri appelée « Chaussures de course pour homme ».
Bah oui, ça arrive tout le temps. Sauf que, sémantiquement parlant, pour le moteur de recherche, c'est strictement la même chose.
Et comme le robot de Google n'a pas d'intuition humaine, bah il ne sait absolument pas laquelle de ces 3 pages choisir pour répondre à un client qui cherche des baskets.
Exactement. Résultat des courses, au lieu de donner toute la force et toute l'autorité à une seule belle page pour qu'elle soit première dans les résultats, le moteur divise cette force par 3. Les pages s'annulent mutuellement et finalement, aucune ne ressort correctement. Tu viens de saboter ta propre visibilité. C'est le principe de l'annulation mutuelle. C'est terrible. Mais là où l'ironie est vraiment à son comble, et c'est une erreur classique d'agence qui est pointée du doigt par Vanguard, Edge, c'est la cannibalisation entre la boutique et le fameux blog.
Oh là là. Ça, c'est le cas d'école le plus tragique pour la rentabilité d'une entreprise.
Mais ouais, j'imagine très bien la scène en plus. L'agence, tu sais, avec les meilleures intentions du monde, elle se dit « Ah, on va faire un guide ultime des chaussures de running pour attirer du monde ».
Ils écrivent un pavé de 3000 mots, ils mettent des belles photos, ils optimisent le texte à fond avec plein de mots-clés.
Et le pire, c'est que ça marche.
Bah oui, ce guide devient tellement performant qu'aux yeux des moteurs de recherche, il passe carrément devant la page catégorie « chaussures running » de la boutique.
Et c'est là que c'est un désastre commercial. L'utilisateur, lui, il cherche à acheter des chaussures. Il clique sur ton lien qui est super bien placé et paf, il atterrit dans une bibliothèque au lieu d'atterrir devant le rayon de ton supermarché.
C'est clair.
Il lit ton magnifique guide informatif, qui d'ailleurs très souvent n'a même pas de bouton d'achat direct bien mis en évidence. Il est très content d'avoir appris plein de choses et il s'en va.
Le taux de conversion global s'effondre. C'est lunaire. L'entreprise a payé une agence souvent très chère pour écrire un texte qui va détruire littéralement les ventes de sa meilleure catégorie de produits.
C'est pour ça que l'architecture, donc la manière dont tu organises et dont tu relis tes pages entre elles, ça ne peut pas être laissé au hasard. Une fois qu'on a fait le grand ménage dans ces histoires de filtres et qu'on a stoppé la cannibalisation, il faut construire des routes claires.
D'ailleurs, l'article parle d'une étude très intéressante portant sur 40 sites e-commerce. Et ça met en avant une règle ultra spécifique concernant cette architecture, la règle des 3 clics. Comment ça fonctionne concrètement, cette règle ?
L'idée derrière ça, c'est la profondeur de ton site. L'étude montre de manière limpide qu'une page qui est accessible en 3 clics ou moins depuis la page d'accueil de la boutique, elle sera découverte et analysée 2,4 fois plus vite par les moteurs de recherche qu'une page qui est enfouie à 5 clics ou plus.
Ah oui, la différence est énorme. Donc si je sors un tout nouveau produit, ou même que je change un prix pour une promo, mais que ma page nécessite que le client clique d'abord sur « menu », puis sur « vêtements », puis sur « femmes », puis « hiver », puis « pull », le moteur de recherche va mettre un temps fou à actualiser l'information.
C'est ça. Le maillage interne, c'est-à-dire la façon dont les liens naviguent à l'intérieur de ton site, c'est vraiment la colonne vertébrale. Si c'est trop profond, l'information ne circule pas. Le robot s'épuise avant d'arriver au fond.
Il y a un autre point d'architecture qui m'a vraiment sauté aux yeux dans cette analyse, et je pense que c'est un avertissement critique pour une grande partie de ceux qui nous écoutent. Je sais qu'il y a beaucoup de gérants qui utilisent la plateforme Shopify pour leur boutique.
Oui. Énormément de monde l'utilise.
Et Samy B soulève un piège natif énorme sur cette plateforme.
Oui, c'est un comportement par défaut de Shopify qui peut littéralement saboter des mois et des mois de travail si on ne le corrige pas dès le début.
Qu'est-ce qui se passe exactement ?
En gros, quand un produit appartient à une collection ou à une catégorie, le système génère très souvent deux adresses web distinctes pour accéder au même produit. Tu as une adresse directe, assez courte, du type « mon site produit chaussures » et tu as une autre adresse beaucoup plus longue qui passe par la catégorie du type « mon site collection sport produit chaussures ».
Donc attends, pour un catalogue de, disons, 1000 produits, on se retrouve instantanément avec 2000 pages aux yeux de l'extérieur.
Exactement.
Mais c'est 100% de contenu dupliqué, généré de manière totalement automatique sans que le vendeur n'ait rien demandé.
C'est le piège structurel par excellence. Si tu ne configures pas la plateforme, souvent en modifiant un peu le code de ton thème pour corriger cette génération d'URL multiples, tu dilues complètement la force de l'intégralité de ton catalogue aux yeux des moteurs.
C'est vertigineux de voir à quel point les fondations techniques, les rouages sous le capot, priment sur tout le reste. Mais bon, il n'y a pas que l'ordinateur de bureau dans la vie. L'analyse de Vanguard Edge fait aussi un rappel massif sur un vrai changement de comportement des consommateurs avec des données très fraîches du troisième trimestre 2025.
En effet, et c'est crucial. On constate aujourd'hui que 75 à 78% du trafic en commerce électronique provient désormais des téléphones mobiles. C'est écrasant. Et ça, ça change totalement les règles d'affichage.
Concrètement, qu'est-ce que ça modifie pour le référencement.seo ? Je veux dire... Un site est un site, qu'on soit sur un grand écran ou un petit, non ?
Bah, plus maintenant. Sur un petit écran de téléphone, l'espace est tellement précieux que les moteurs de recherche ne veulent plus afficher de simples liens bleus textuels comme avant.
Ils affichent quoi à la place ?
Ils mettent de plus en plus en avant ce qu'on appelle des résultats enrichis. C'est-à-dire que directement dans la page de recherche Google, souvent sous la forme de blocs visuels ou de carrousel Google Shopping, on te montre directement la photo du produit, son prix exact, s'il est en stock ou pas, et même les petites étoiles des avis clients.
Ah ouais, donc l'utilisateur n'a même plus besoin de cliquer sur le lien pour aller voir le produit sur le site. L'information est déjà prédigérée sur son écran.
C'est tout l'enjeu aujourd'hui. Et pour que le moteur de recherche soit capable d'afficher ces informations visuelles avec précision, il faut que ce qu'on appelle le flux produit de la boutique soit d'une propreté clinique.
Le flux produit ?
Oui, c'est la base de données derrière. La précision de ton titre, la structure des caractéristiques techniques, les données structurées qui sont cachées dans ton code. Et ça, c'est trop souvent l'angle mort des marchands. Ils se concentrent sur le texte qui est visible par l'humain, la description poétique du produit, au lieu de soigner les données brutes qui sont envoyées aux machines.
Ce qui nous amène inévitablement à la grande question finale de la rentabilité. Parce qu'au fond, on peut avoir nettoyé tous ces filtres à facettes, réglé le problème de duplication sur Shopify et avoir un flux mobile parfait. Si on ne mesure pas le succès avec les bons indicateurs, on navigue en plein brouillard. Il y a une petite anecdote dans l'article concernant la philosophie de suivi des performances qui est, je trouve, une pure merveille de pragmatisme.
Tu parles du client historique dans le textile, celui dont le chiffre d'affaires repose à 40% sur le trafic naturel.
Exactement, celui-là. L'auteur raconte qu'en 3 ans de collaboration, le dirigeant de cette entreprise n'a jamais, mais alors pas une seule fois, envoyé un email ou un message pour demander « à quelle position se trouve mon mot-clé principal ce matin ?»
Jamais.
Jamais. La seule et unique question qui l'intéresse à la fin de chaque mois, c'est « Combien d'argent cette stratégie SEO a-t-elle généré concrètement dans la caisse de l'entreprise ?»
Et c'est une vraie leçon pour toute notre industrie, franchement. Suivre fiévreusement la position d'un mot-clé tous les matins, c'est ce qu'on appelle une métrique de vanité.
C'est clair, ça flatte l'ego.
C'est très gratifiant pour l'ego de se voir numéro 1 sur Google, mais si ce mot-clé, il génère du trafic vers une page de blog qui, au final, ne vend rien du tout, cette première place, elle a une valeur financière de zéro.
L'ego ne paie pas les salaires de tes employés à la fin du mois.
Non. Voilà pourquoi l'approche défendue par Vanguard Edge insiste tant sur le suivi transactionnel. L'échec de beaucoup d'agences généralistes y réside souvent là. Elles envoient des superbes rapports mensuels montrant, une hausse de trafic de 30%. Tout le monde s'applaudit, on sabre le champagne.
Mais le comptable de la boutique, lui, il ne voit aucune différence sur le chiffre d'affaires net. Le trafic informatif a enflé, mais les ventes, elles, ont stagné.
C'est exactement ça le drame.
Si on doit tirer la substantifique moelle de cette analyse, de cet article de Samy B, on assiste vraiment à un changement de paradigme. Les stratégies d'acquisition qui sont basées sur la production massive de contenu éditorial, le fameux modèle du blog qu'on applique sans réfléchir à tout va, c'est une impasse hyper coûteuse pour la vente en ligne aujourd'hui.
Ouais, on passe clairement d'une logique d'édition de contenu à une logique pure d'ingénierie de catalogue. La priorité absolue, inconditionnelle même, elle doit revenir aux pages de collection.
Il faut une maîtrise technique chirurgicale. Désamorcer la bombe des filtres à facettes, stopper d'urgence l'hémorragie de la cannibalisation structurelle et surtout, aligner tous ces indicateurs sur l'argent réel généré, pas sur du vent ou du trafic de touristes.
C'est le résumé parfait.
Et c'est là que ça devient crucial pour ceux qui nous écoutent. Si, parmi les membres de notre audience, certains gèrent ou possèdent une boutique en ligne et que vous venez d'avoir une petite sueur froide, ce que je comprendrais en réalisant que vous êtes peut-être assis sur des milliers d'URL fantômes générés par vos filtres ou que votre beau blog est littéralement en train d'étouffer vos propos produits, il ne faut pas rester dans le flou.
Surtout pas, oui.
Comme on l'a vu ensemble, on ne peut pas réparer les fondations d'une maison si on n'a pas les plans entre les mains. C'est pourquoi, à la lecture de cet article, il est vraiment fortement recommandé de poser un diagnostic très précis. L'auteur propose d'ailleurs une porte d'entrée très spécifique pour lancer cette vérification de l'ingénierie de votre site. Il suffit de se rendre à l'adresse exacte recommandée pour réaliser un audit. Alors prenez de quoi noter, c'est vanguardedgeconsulting.com/service/audit-seo-e-commerce. Je répète, vanguardedgeconsulting.com/service/audit-seo-e-commerce. C'est littéralement la première étape indispensable pour arrêter d'imprimer des petits magazines gratuits et commencer enfin à allumer les lumières dans vos rayons.
D'ailleurs, pour conclure vraiment cette réflexion, les éléments que nous venons d'explorer ensemble soulèvent une question assez vertigineuse, je trouve, sur la trajectoire globale de l'industrie e-commerce.
Ah ouais ? Je t'écoute ?
Si l'on met tout bout à bout, si près de 80% du trafic est mobile aujourd'hui, et que les petits écrans sont de plus en plus accaparés par des résultats visuels ultra enrichis générés par les moteurs,
oui.
Est-ce que l'avenir même du référencement pour le e-commerce ne serait pas en train de muter radicalement ? Se pourrait-il que dans quelques petites années, le concept même de concevoir des pages web traditionnelles, visuelles, devienne complètement obsolète ?
Attends, tu veux dire que le site e-commerce classique, avec son design et ses menus, y disparaîtrait ?
Peut-être bien. Au profit d'une approche où l'intégralité du catalogue ne serait plus qu'une immense base de données brute, un flux structuré avec une perfection clinique uniquement lue et interprétée par les algorithmes des moteurs de recherche.
Waouh !
Tes algorithmes se chargeraient eux-mêmes d'afficher le produit avec la transaction intégrée directement à l'acheteur final, sans que ce dernier ne visite jamais le site au sens où on l'entend aujourd'hui.
Donc, si je te suis, le supermarché n'aurait même plus d'existence physique ou visuelle propre. Ce serait juste un inventaire numérique parfait, connecté instantanément à l'intention d'achat du client, directement via l'écran de son téléphone.
C'est ça.
Eh bien, voilà une perspective qui donne carrément de quoi faire chauffer quelques neurones. Un immense merci d'avoir partagé cette analyse si éclairante sur ce sujet complexe.
Avec grand plaisir.
Merci à tous de nous avoir accompagnés dans cette plongée fascinante. Et d'ici notre prochain échange, eh bien, n'oubliez pas d'allumer la lumière dans les bons rayons. À très vite.